Vous écoutez, on lit pour vous.
Carburé à l'eau pétillante. Est-ce nocif pour les dents? Un texte de Catherine Enfield, paru le 20 septembre 2024 dans la presse. L'eau gazéifiée ne contient ni sucre ni édulcorant artificiel, mais le dioxyde de carbone, qui la rend pétillante, l'acidifie, tout comme les arômes qu'on y ajoute. Cette acidité varie sensiblement d'un produit à l'autre. Quel en est l'effet sur la santé dentaire? Peut-on en boire beaucoup, beaucoup? L'eau gazéifiée a le vent dans les voiles. À l'épicerie, elle se décline en mille et une marques, mais aussi en mille et un parfums. Citron, mûre, ananas. Et à la maison, les appareils SodaStream gagnent en popularité. En 2019, 6% des ménages canadiens en possédaient un. Les conséquences des boissons sucrées sur la santé dentaire sont bien connues et bien documentées. Les bactéries convertissent le sucre en acide lactique, ce qui cause la carie. L'acidité de la boisson a aussi un impact sur les dents, mais différent. Au contact d'une solution acide, l'émail à la surface des dents se dissout et ramollit de façon temporaire. Il devient alors sujet à l'érosion, une problématique qui touche désormais entre 30 et 50% des enfants dentelés et entre 20 et 45% des adultes. La salive, heureusement, a un pouvoir tampon. Ces ions reminéralisent l'émail et le font donc durcir à nouveau. La salive fait son bout de chemin pour reminéraliser l'émail, mais si les dents sont tout le temps attaquées par l'acide éventuellement, il y aura un effet d'érosion, explique Liliane Malsevski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec. Plus la boisson est acide, plus le risque d'érosion est élevé. Les études in vitro en témoignent bien. Seuil. L'eau neutre a un pH de 7. Un pH supérieur à 7 indique que l'eau est alcaline et un pH inférieur à 7 qu'elle est acide. Plus le pH est bas, plus la solution est acide. À partir de quel pH l'émail commence-t-il à se dissoudre? Des études portant sur la plaque dentaire évoquent un seuil de 5,5, mais pour l'érosion, on considère que le risque devient substantiel en deçà de 4, indique John D. Ruby, professeur adjoint en dentisterie pédiatrique à l'Université d'Alabama à Birmingham. En 2016, son équipe a testé le pH de 379 boissons et proposé l'échelle suivante. Une boisson est minimalement érosive lorsque son pH est égal ou supérieur à 4. Érosive lorsque le pH se situe entre 3 et 3,99 et extrêmement érosive lorsqu'elle a un pH inférieur à 3. Tout ce qui est en deçà de 4. Le moins vous en buvez, le mieux c'est, résume John Ruby, joint par la presse. L'émail des dents ne se régénère pas. L'érosion sévère peut mener à l'exposition de la dentine, à l'hypersensibilité et même à la perte de la dent affectée. Si on a une couche d'émail plus mince, la carie va progresser aussi plus rapidement, avertit la docteure Malsevski. Au banc des boissons les plus érosives, on trouve des boissons gazeuses, avec ou sans sucre, des boissons sportives et des jus. Ces boissons très acides sont donc les principaux ennemis à abattre bien avant l'eau gazéifiée. Leur surconsommation serait la première cause extrinsèque de l'érosion dentaire, le reflux gastrique étant la principale cause intrinsèque. Eau pétillante et minéraux. Lorsque l'équipe du professeur John Ruby les a testés, les eaux gazéifiées avaient un pH variable, les moins acides ayant un pH d'environ 5, et les plus acides, des eaux aromatisées de d'azanie contenant de l'acide citrique, un pH de 3. Les tests réalisé au laboratoire de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal, à la demande de la presse, ont montré des écarts similaires. L'acidité est un indicateur du potentiel érosif d'une boisson, soit, mais d'autres facteurs entrent en ligne de compte, explique Caroline Nguyen-Nock, professeure agrégée au département de dentisterie de restauration à l'Université de Montréal. L'acide citrique a un potentiel érosif beaucoup plus élevé que l'acide carbonique, qui résulte de l'ajout de gaz carbonique à l'eau, indique Caroline Nguyen-Nock. Quel type d'acide font grimper le pH des eaux aromatisées comme Bublé ou AA? Ces boissons contiennent de l'essence naturelle ou de l'arôme naturel, des termes qui ne peuvent pas englober l'acide citrique ou d'autres acides, indique-t-on à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les formules précises sont confidentielles, peut-on lire sur le site de PepsiCo qui distribue les produits Bublé. Autre facteur à considérer. La teneur en minéraux retrouvée dans la dent, calcium, phosphore, et en fluorure de la boisson. Pour un même pH, le jus de fruits fortifié en calcium, par exemple, est moins érosif que le jus ordinaire. Comment savoir si son eau pétillante est saturée en minéraux? Difficile à déterminer, mais on pourrait par exemple favoriser les eaux minérales, suggère Caroline Nguyen-Nock. Enfin, note la professeure, le pouvoir tampon de la salive varie d'une personne à l'autre par sa composition et sa quantité. Avec l'âge et avec la prise de médicaments, la quantité de salive a tendance à diminuer. Modération. Mais ce qui importe le plus, c'est probablement la fréquence de consommation. Le dentiste John Ruby donne l'exemple du vin, dont le pH oscille entre 3 et 3,8. Si vous buvez un verre de vin au souper, je ne crois pas que vous couriez un risque important d'érosion dentaire, dit-il. Par contre, les goûteurs de vin, eux, sont à risque, surtout lorsque leur carrière s'allonge. Le problème, selon lui, c'est cette habitude d'avoir toujours une bouteille avec soi et d'en boire souvent. C'est là que nous avons des ennuis. Quand l'eau pétillante a un pH supérieur à 4, voire supérieur à 5, peut-on en boire sans retenue? Peut-on carrément troquer l'eau plate pour de l'eau pétillante si elle n'est pas aromatisée? C'est un plaisir de boire sa petite eau minérale, et je le fais moi aussi. Mais je ne sirote pas d'eau pétillante toute la journée, résume Caroline Nguyen-Nock. Avoir la bouche tout le temps dans un environnement acide, je ne le recommanderais pas. Pour Liliane Malkiewski, consommer quotidiennement son petit Perrier, ce n'est pas vraiment la fin du monde. Mais si on boit chaque jour, à chaque repas, il pourrait y avoir à long terme un effet sur l'émail. Le professeur John Ruby termine sur ce conseil universel. Au Québec, vous avez la chance d'avoir une eau merveilleuse, buvez-la. Quelques trucs. Il existe des façons de contrôler le pH de sa bouche, à commencer par utiliser un dentifrice et un rince-bouche fluoré. On peut se gargariser avec de l'eau et un peu de bicarbonate de sodium, note Liliane Malkiewski, qui conseille également d'attendre 15 à 20 minutes avant de se brosser les dents ou de consommer un produit sucré après avoir consommé une boisson acide, eau pétillante incluse. Utiliser une paille permet aussi de diminuer le contact de la boisson avec les dents. C'était « Carburer à l'eau pétillante, est-ce nocif pour les dents ?» Un texte de Catherine Enfield, paru le 20 septembre 2024 dans La Presse.
Quel est le meilleur endroit pour le futur de Fierté Montréal? Une chronique de Samuel Larochelle, paru le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Quand j'ai su que Fierté Montréal réfléchissait à l'emplacement de ses futures festivités, j'ai imaginé 5 endroits potentiels. Le parc Jean-Drapeau, la place Émilie-Gamelin, le parc Olympique, le quartier des spectacles et le parc des faubourgs. Je dois préciser que je ne me suis jamais plaint du déménagement de la Pride au pied du stade. Probablement parce que je fais partie des milliers de queers qui vivent dans Hochelag, que je surnomme affectueusement le Off Village. Comme je vis à seulement 10 minutes de l'intersection Pie-Neuf et Pierre de Coubertin, je n'ai qu'à faire quelques pas chassés pour assister au spectacle ou zieuter, je veux dire danser, au tea dance. Je peux ensuite me rendre dans les bars du village en 15 minutes de marche, métro, marche. Est-ce que l'esplanade du parc olympique est l'endroit le plus chaleureux du monde? Absolument pas. La surabondance de béton fait mal à l'âme. Mais le caractère majestueux du stade donne de la gueule à nos célébrations et j'apprécie l'immense espace à notre disposition pour bouger et respirer un peu. On ne pouvait malheureusement pas en dire autant au parc des Faubourgs et à Émilie Gamelin. Il suffit d'avoir assisté à un show de drag queen international, un soir sans pluie, pour se sentir comme du bétail dans un enclos. Si vous osiez vous déplacer, vous risquiez d'être écrasé par la foule ou de vous faire taponner par les astites queer en manque qui n'ont pas encore compris le consentement. Bien entendu, Émilie Gamelin est à un saut de puce des commerces du village, alors que le parc des Faubourgs se trouve à quelques minutes à pied. Cela dit, le manque d'espace lancerait un drôle de signal aux queers et aux alliés de ce monde. Des eaux, pas des eaux, on manque de place. Vous reviendrez l'an prochain. Si des milliers de personnes ont pris l'habitude de prendre le métro entre le stade olympique et les stations Papineau, Baudry et Berry-UQAM, j'imagine qu'on pourrait faire de même en sortant au parc Jean-Drapeau, qui a l'habitude d'accueillir d'immenses foules durant Oceaga, Ilsonic et Lasso. Cependant, un conflit d'horaire pointe à l'horizon. Les gros shows de fierté se sont tenus du 8 au 11 août 2024, en même temps que le Festival de musique électro. Quand on sait que Ilsonic a attiré 55 000 personnes l'été dernier, je doute que l'organisation du Parc Jean-Drapeau veuille se départir de cet événement pour nous faire de la place. Arrêtons-nous maintenant à la place des festivals, un espace conçu pour favoriser la tenue de spectacles à grand déploiement. En juin et juillet, les Franco, le Festival de jazz et Juste pour rire, maintenant Comédia, Montréal, attire des centaines de milliers de personnes dans le secteur. Un des grands avantages du quartier des spectacles est de se trouver à 1 kilomètre du village. La ville pourrait piétoniser la rue Sainte-Catherine entre Deblurie et Papineau pendant quelques jours et le secteur deviendrait le quartier général de Fierté Montréal. Les spectacles de moyenne taille se tiendraient à Émilie Gamelin, comme c'est déjà le cas, et les plus gros à la place des festivals. Cette haute concentration d'activités permettrait aux queers d'occuper le village avant, pendant et après les activités, en dépensant davantage dans les commerces du village qui pâtissent depuis des années des problèmes sociaux qui font les manchettes. Et contrairement au parc olympique, qui satisfait surtout les Hochelagais, le quartier des spectacles et le village deviendraient un pôle plus accessible pour les participants, participantes, qui viennent des autres quartiers, des banlieues et des régions. Il reste néanmoins 3 bémols quand j'essaie de prédire le futur. 1. Le festival Présence autochtone occupe déjà le quartier des spectacles pendant les journées les plus achalandées de Fierté Montréal. Et que j'en vois pas un, une, écrire qu'on a juste à les tasser, en agissant comme des colonisateurs de bas étage. Je prône plutôt pour un dialogue afin de trouver les meilleures dates pour que tout le monde puisse cohabiter et s'épanouir. 2. Il me semble plus facile de sécuriser l'esplanade du parc olympique en surveillant les entrées terrestres, alors que le quartier des spectacles exige, en plus de surveiller les entrées sur la rue, d'avoir à l'œil les attaques qui pourraient venir des nombreux gratte-ciels entourant les lieux. Dans un contexte où les personnes queer sont de plus en plus insultées, violentées et assassinées, on doit se poser la question. 3. Même si les personnes LGBTQ+, se donnent de plus en plus le droit d'agir librement, se sentiront-elles à l'aise de porter des vêtements extravagants, de danser à en perdre la tête et d'irradier la queerness au centre-ville, entouré de straight. La question est dérangeante, mais nécessaire. À ce sujet, je crois que Fierté Montréal est le moment idéal pour apprendre à faire exploser des arcs-en-ciel de paillettes et donner des French mouillés dans la face des queerphobes, avant de continuer sur notre lancée le reste de l'année. Alors, on va fêter à côté du stade, de la place des Arts, de la Biosphère, du vieux Archambault ou de l'avenue de l'Orimier. C'était « Quel est le meilleur endroit pour le futur de Fierté Montréal? » Une chronique de Samuel Larochelle, parue le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
Le BAP invite Québec à revoir son projet de parc national aux dunes de Tadoussac. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 13 septembre 2024 dans Le Devoir. La création d'un parc national pour protéger le secteur des dunes de Tadoussac est une bonne idée, souligne le Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP. Mais le gouvernement Legault, qui a promis ce nouveau parc en campagne électorale, devra revoir son projet pour le rendre plus acceptable aux yeux des citoyens du village. Le territoire projeté du parc national des dunes de Tadoussac, situé à l'est du village de Tadoussac, sur la côte nord, a une superficie d'environ 6,5 km². Il servirait à protéger un paysage exceptionnel, mais aussi des vestiges historiques et un site ornithologique de renommée internationale. Le gouvernement souhaiterait aussi y implanter un site de camping et aménager le secteur pour faciliter l'accès au rivage situé au bas des terrasses marines qui offrent une vue sur l'estuaire du Saint-Laurent. Dans un rapport publié le vendredi 13 septembre 2024, le BAP conclut que la création d'un nouveau parc national québécois est la meilleure option, notamment en raison de la tenure publique des terrains et de la garantie de pérennité qu'il procure. La protection de ce territoire permettrait aussi de mieux encadrer le fort achalandage touristique dans ce secteur. La phase d'aménagement et de construction des installations s'étalerait sur 3 ans, pour un budget d'investissement de près de 50 millions de dollars et permettrait la création de 171 emplois directs. La phase d'exploitation est prévue de mai à septembre, à partir de 2029. La Société des établissements de plein air du Québec créerait alors 28 emplois saisonniers. Revoir le projet. La commission d'examen qui a mené des consultations publiques à Tadoussac constate toutefois le besoin de revoir le projet pour rechercher une plus grande acceptation de la part des Tadoussaciens. Le BAP recommande notamment de réviser la taille et l'emplacement du site de camping prévu, mais aussi de prévoir un accès gratuit au parc pour les citoyens de la région qui fréquentent déjà assidûment le secteur des dunes. Dans le cadre des consultations, notent les commissaires du BAP, des participants ont exprimé le souhait que soient protégées des cultures et traditions locales telles que la cueillette de mie et de végétaux, l'accès au territoire avec un chien et la libre circulation à cheval, à moto et en véhicule hors route. Et plusieurs se demandent également si le statut de parc national est le plus approprié pour le secteur des dunes. La formation de ces dunes, situées en terre publique, remonte à plus de 10 000 ans, lors de la dernière glaciation. Un énorme glacier, celui-là même auquel on doit le fjord du Saguenay, s'était alors mis à fondre. Les eaux libérées ont provoqué un dépôt de sédiments que le glacier avait laissé sur son passage. La croûte terrestre s'était ensuite graduellement redressée, entraînant le retrait de la mer. Ce processus s'est déroulé en plusieurs phases, ce qui explique les deux plateaux distincts que l'on voit aujourd'hui, qui composent ces terrasses marines. l'idée de protéger ce territoire a été évoquée à quelques reprises depuis 1983, lors de la création du parc Saguenay, aujourd'hui appelé le parc national du fjord du Saguenay. Le gouvernement Legault a pris l'engagement de protéger 30 % des milieux naturels du Québec d'ici 2030. Selon les données officielles, environ 17 % du territoire naturel terrestre du Québec est actuellement protégé, soit environ 257 000 km². En ce qui a trait aux milieux marins, on parle d'environ 10 % avec un peu plus de 16 000 km². Cela signifie que le Québec devra ajouter plus de 200 000 km² de territoire terrestre protégés d'ici la fin de la décennie, mais aussi au moins 30 000 km² de territoires marins protégés. Québec travaille actuellement à l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent afin de quadrupler la superficie du seul parc marin de la province. Des consultations sont prévues à l'automne 2024. C'était Le BAP invite Québec à revoir son projet de parc national aux dunes de Tadoussac. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 13 septembre 2024 dans Le Devoir.
Le combat de Pierre Falardeau. Un texte de Raphaël Roy, paru le 3 octobre 2024. Dans Le Devoir. Il y eut des artistes que l'on découvrit trop tard ou qui disparurent trop vite pour que nous puissions voir de nos propres yeux l'édification de leur œuvre. Pierre Falardeau fait partie de ceux-là, un homme qui, malheureusement, était déjà disparu lorsque je pus véritablement le découvrir, lire ses écrits et visionner ses films. Mon premier souvenir fut celui de mes grands-parents, assis devant la télévision, pleurant de rire devant les pitreries irrévérencieuses d'Elvis Gratton. À ma décharge, j'étais trop jeune pour comprendre l'ironie mordante de ce personnage et les symboles politiques cachés sous les plaisanteries grivoises de ce bouffon colonisé, mais je vis à travers leurs éclats de rire la force comique et subversive de l'œuvre de Falardeau. Ce ne fut qu'en grandissant que je réalisais à quel point cet humour décapant cachait un engagement politique profond. Pierre Falardeau ne fut pas qu'un cinéaste ou un intellectuel, il incarnait un idéal. Pour lui, la cause de l'indépendance du Québec fut bien plus qu'une question de politique, elle devint une question existentielle. Juger que le Québec devait ou non être libre, c'était répondre à la question fondamentale, car il en allait du destin du peuple québécois. Marteler. On dit souvent qu'un artiste essaie de refaire la même œuvre constamment. Pierre Falardeau fut un artiste de ce genre, qui martela les mêmes thèmes et les mêmes idées dans son œuvre cinématographique et dans ses écrits. Octobre, 15 février 1839. Le Party. Elvis Gratton. Le temps des bouffons. L'exploitation coloniale revint encore et encore sous sa plume et dans ses images, comme pour crier l'importance de la liberté des peuples. Pour Falardeau, la liberté n'avait pas besoin d'être justifiée par des considérations économiques ou écologiques comme beaucoup tentent de le faire aujourd'hui. Elle était, elle est, et elle sera toujours en elle-même une valeur suprême, une nécessité pour chaque peuple et tout être humain. Falardeau conçut la lutte pour l'indépendance du Québec comme un combat de vie, un combat qui ne s'arrêterait jamais tant que la liberté ne serait pas conquise. Le pamphlétaire à la mine aiguisée aimait souvent comparer la politique à un combat de boxe. C'est une lutte injuste, difficile, longue, sale et essoufflante, mais si l'un abandonne, il donne la victoire à l'autre. Il voyait dans cette lutte une mission, une obligation de ne jamais courber l'échine face à l'asservissement, de rester droit et de ne jamais se trahir soi-même ni trahir les aspirations les plus profondes de son peuple. un passage émouvant du célèbre discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, un texte auquel Falardeau fit souvent référence, illustra bien cette lutte existentielle pour la liberté. Lors d'une discussion entre un Perse et deux Grecs, le premier, n'ayant pas connu la liberté, ne comprit pas pourquoi les Grecs ne voudraient point devenir des sujets du roi de Perse en échange de richesses et de pouvoir. L'un des Grecs affirma : « Tu as éprouvé la faveur du roi, mais de la liberté, quel goût elle a, combien elle est douce, tu n'en sais rien. Or, si tu en avais tâté, toi-même nous conseillerais de la défendre, non pas avec la lance et l'écu, mais avec les dents et les ongles. » Cette citation incarne, à mes yeux, une synthèse du combat de Pierre Falardeau, un combat pour la survie d'un peuple qui refuse de se laisser réduire au silence, un peuple qui, comme le chante Richard Séguin, jour après jour et malgré tout, reste debout. Cri d'alarme. Son art enragé, son indignation sans borne et ses œuvres percutantes contrastent avec les prises de position frileuses ou apolitiques des artistes contemporains. Nous vivons à une époque où les voix dissidentes, ou la parole dérangeante des chiens de garde de la liberté comme lui, se font rares. Il manque cruellement au Québec des intellectuels comme Pierre Falardeau, qui, à travers ses films, ses livres et ses coups de gueule, portait sur ses épaules le poids de la lutte pour l'indépendance du peuple québécois. Dans le texte de la Boétie est décrit comment l'acceptation de la servitude est pire que la servitude elle-même. Par conséquent, la pensée de Pierre Falardeau résonne comme un cri d'alarme, un appel à ne jamais cesser de lutter pour ce que l'on croit juste. Son œuvre est traversée par la conviction que la liberté ne se négocie pas, qu'elle ne se subordonne pas à des questions secondaires, superflues, éphémères. 15 ans après sa disparition, Pierre Falardeau nous rappelle que le combat pour l'indépendance du Québec est bien loin d'être terminé. Au bout du compte, chacun de nous abrite un Falardeau endormi, niché dans un recoin de notre esprit égaré, prêt à surgir au moment opportun, quand les fruits des vergers de notre pays seront mûrs. C'était « Le combat de Pierre Falardeau », un texte de Raphaël Roy, paru le 3 octobre 2024 dans Le Devoir.